Il est 8h sur Europe 1. La suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bonjour, bienvenue à vous et merci de nous rejoindre dans la matinale le week-end. Dans un instant, l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin le général Michel Friedling, commandant du commandement de l'espace. Nous verrons entre autres pourquoi la guerre en Ukraine a non seulement des répercussions sur nous, sur notre quotidien, mais également dans l'espace. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité et cet ultimatum lancé par Emmanuel Macron qui a pris fin hier soir. Contraint de négocier avec le Parlement, le président demandait aux oppositions de se positionner pour bâtir des compromis. Sauf que pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. Il se dit, malgré tout, confiant. Un retour en arrière aux États-Unis, 50 ans en arrière, la Cour suprême annule le droit à l'avortement qui existait depuis 1973, laissant à chaque État le soin de légiférer. Dans la foulée, plusieurs viennent d'interdire les IVG. Joe Biden, le président, déplore une erreur tragique. Et puis le retour en force du Covid avec une hausse des contaminations ces derniers jours. A priori, pas de retour aux restrictions, même si le gouvernement envisage de recourir au pass sanitaire aux frontières pour ceux qui entrent en France. Je rappelle que près de 80 000 cas positifs ont été détectés sur la seule journée d'hier. Tout de suite, c'est l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
D'abord, bonjour à tous et bienvenue et bonjour général Friedling.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La guerre Ukraine-Russie continue et parfois s'amplifie. Il y a une partie qui est invisible, on va voir laquelle, et une partie qui est visible, les destructions, les mouvements de chars ou de canons. Mais en fait, si j'ai bien compris, la guerre a commencé avant le 24 février et dans l'espace.
Absolument. La guerre a commencé dans l'espace et je voudrais même revenir un petit peu avant le début des opérations terrestres qui ont commencé le 24 février. Je voudrais vous rappeler cet événement qui est passé, non pas inaperçu, mais on n'a pas vraiment fait le lien avec les opérations en Ukraine. Il s'agit du tir d'un missile anti-satellite le 15 novembre 2021, donc 3 mois avant le début des opérations. Et ce tir est un message stratégique très très fort, adressé par la Russie à la communauté internationale, qui est « nous avons des capacités pour détruire vos satellites et vos capacités spatiales ». Alors c'était à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface du globe. C'était un satellite russe, donc c'était une cible sur laquelle ils ont tiré pour démontrer qu'ils avaient cette capacité. C'est un message très fort, 3 mois avant le début d'opération. Et c'est aussi un message qui est que nous sommes prêts à utiliser de telles capacités, le moment venu, pour rétablir une forme d'équilibre entre l'avantage que vous avez dans l'espace, vous, les nations occidentales, et nous, la Russie.
C'est-à-dire qu'avant les opérations au sol, Poutine a aussi ordonné des cyberattaques, je ne sais pas avec quel effet, mais des agressions de cybersécurité vont commencer aujourd'hui à annoncer l'offensive militaire conventionnelle. Il nous envoie des signes d'abord.
Absolument. En fait, ce que ce conflit a démontré, c'est ce que nous savions déjà, c'est-à-dire que les opérations militaires, elles s'étendent dans tous les milieux et dans tous les champs, à la fois dans le milieu terrestre, aérien et naval, ce qu'on sait traditionnellement. Mais elles commencent sans doute avant même les opérations dans les autres milieux, par des opérations dans le cyber et dans l'espace. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 février, il y a eu une attaque massive cyber à l'encontre du réseau Viasat opéré par un opérateur Kassat pour le compte de Telsat, qui était utilisé par les autorités gouvernementales ukrainiennes et par les militaires ukrainiens, donc sur le territoire ukrainien. Et cette attaque a fonctionné, puisqu'il y a des milliers de terminaux qui ont été neutralisés dans la zone de l'Ukraine, et ça a précédé de quelques heures. Et donc ce qu'on voit bien, c'est que les opérations militaires aujourd'hui commencent d'abord dans le milieu cyber et dans le milieu spatial.
C'est donc le début d'un nouveau risque.
C'est la concrétisation, je veux dire, c'est la démonstration concrète de ce que nous avions déjà identifié en 2019 lors de la publication de notre stratégie nationale qui avait été demandée par le président de la République. On sait aujourd'hui que les opérations qui ont lieu sur la Terre ont des répercussions, non seulement des répercussions, mais commencent avant même dans les autres milieux cyber-espace.
C'est-à-dire qu'il faut être préparé et prévenu. Mais à qui ou à quoi les satellites américains ont servi ? À quoi ils ont servi pendant cette guerre ? Et en quoi l'armée ukrainienne elle-même de Zelensky a été aidée ?
Alors ce conflit a également montré, c'est l'importance de l'espace. C'est-à-dire que non seulement ça commence dans le cyber et dans l'espace, mais l'espace est omniprésent. Il y a une forme de paradoxe parce qu'on ne voit pas sur les écrans de télévision, les satellites, on ne voit pas les effets de
l'espace. On ne sait même pas que ça existe.
On voit des chars, on voit des canons, on voit des hommes qui combattent dans les rues, on voit des bâtiments détruits. On ne voit pas ce que fait l'espace. Or, dans ce conflit, l'espace a été omniprésent dès le début. On constate des brouillages massifs dans toute la zone du conflit et jusqu'à la Baltique. Des signaux GPS
en permanence.
Pour empêcher qu'ils ont des répercussions d'ailleurs sur les activités civiles, aéronautiques notamment. On a bien vu l'importance de l'imagerie spatiale. On a tous vu sur les écrans de télévision pendant les débuts du conflit notamment toutes les images prises par satellite de ces colonnes de chars russes. Images d'ailleurs qui étaient prises par des opérateurs privés. Et donc ces images qui ont servi non seulement à informer le gouvernement ukrainien et les armées ukrainiennes, mais également la communauté internationale du déroulement des opérations. Et on a vu également l'importance des télécommunications spatiales, puisque tout le monde a en tête l'appui que Elon Musk a fourni au gouvernement ukrainien et aux armées
ukrainiennes. C'est-à-dire que les privés entrent, dans certains cas, ils renforcent ou ils gênent les États.
Alors ça, c'est un autre élément extrêmement fort d'enseignement extrêmement fort de ce conflit, c'est l'importance des acteurs privés dans la fourniture de capacités de moyens spatiaux.
Général, est-ce que du sol, on voit les mouvements des satellites, on les voit se rapprocher, on les voit se menacer, parfois se neutraliser ?
Alors du sol, on surveille tout ça, ouais. Effectivement, aujourd'hui. Et c'est notre
chez vous, autour de vous, avec les collaborateurs militaires.
C'est notre mission au commandement de l'espace de surveiller les activités suspectes et les comportements irresponsables, les comportements potentiellement hostiles dans l'espace, et on en constate beaucoup. On a vu l'émergence de ces nouvelles menaces dans l'espace depuis quelques années. Et les démonstrations, les montées en puissance de ces menaces est une réalité. Ça augmente tous les jours, on le voit.
Mais quand vous voyez des satellites se rapprocher, même à grande distance, qu'est-ce que vous pouvez faire pour alerter ou les Russes et les Chinois qui ne doivent pas trop s'aventurer ?
Écoutez, après, c'est une affaire. Nous, militaires, nous rendons compte à nos autorités politiques et qui ensuite des discussions avec les États concernés pour manifester leur désapprobation ou leurs préoccupations. Donc ça se fait soit de manière discrète, par des discussions diplomatiques, soit par des communiqués de presse, le cas échéant. Par exemple, le tir de novembre 2021 du missile russe a été fermement dénoncé par M. Jean-Yves Le Drian et Mme Parly.
C'est-à-dire, on vous dit, on vous a vu. Si l'Ukraine possédait aujourd'hui les satellites armés, qu'est-ce qui se passerait ?
Je pense qu'on aurait davantage de choses qui se passeraient dans l'espace. Aujourd'hui, l'Ukraine ne dispose pas de capacités spatiales en propre et donc bénéficie de l'appui des pays.
Oui, mais si elle les avait.
Si elle les avait, je pense que ça serait considéré comme une capacité militaire par les Russes et on verrait sans doute des choses beaucoup plus préoccupantes dans l'espace.
Et est-ce que les Russes peuvent perdre cette guerre ?
Alors, c'est une question difficile que vous me posez. Je pense qu'il faudrait définir ce que c'est que gagner ou perdre une guerre. En l'occurrence, je pense que, et là je vais me placer sans doute sur un terrain plus politique, quels sont les objectifs politiques de la Russie aujourd'hui, quels sont les objectifs politiques de l'Ukraine. Je pense que la Russie va renoncer sans doute à ses objectifs initiaux qui étaient l'annexion totale de l'Ukraine. Ils ne sont pas à Kiev, le gouvernement ukrainien est toujours en place, c'est une forme de victoire politique. Sur le terrain militaire, c'est une autre histoire, les provinces du Donbass sont en train d'être conquises par la Russie. Et donc, on va sans doute arriver à une forme de statu quo. Et ensuite, une discussion politique pourra s'installer, mais qui prendra sans doute beaucoup de temps.
À travers ce que vous dites, général Friedling, cette guerre marque une nouvelle étape, semble-t-il, dans la militarisation de l'espace, avec peut-être déjà ou un jour des satellites tueurs, qu'ils soient grands ou petits. Ou est-ce qu'on n'ose pas le dire ?
Encore une fois, ces menaces de satellites tueurs ou de satellites capables, on a vu des démonstrations également récentes menées par d'autres pays compétiteurs stratégiques de capacité de neutralisation de satellites. Lorsque vous êtes capable d'attraper un satellite de manière qui n'est pas coopérative, qui ne coopère pas au rapprochement d'un autre satellite, que vous êtes capable de l'approcher à 36 000 km de la Terre, de l'attraper et de le tirer jusqu'à une orbite dite cimetière, où il ne peut plus réaliser sa mission.
C'est-à-dire quelle hauteur par rapport à la planète ?
C'est-à-dire quelques centaines de kilomètres. Alors là, on est à 36 000 km à peu près de la Terre, sur l'orbite géostationnaire. Et lorsque vous attrapez un satellite sur cette orbite-là et que vous le tirez, en quelque sorte, vous le remorquez, en quelque sorte, jusqu'à l'orbite cimetière, eh bien, vous le neutralisez et c'est une forme de...
Et il y a beaucoup de satellites dans le cimetière ?
Alors, il y a des satellites qui sont mis sur ces orbites cimetières parce que, intentionnellement, parce qu'ils ont terminé leur mission et ils ne sont plus capables de la remplir. Mais là, en l'occurrence, on a une démonstration très récente d'une action qui était une action dite de démonstration technologique, mais qui a des applications militaires évidentes.
Au passage, il faut protéger les satellites d'observation et de communication dont nous dépendons dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire, s'il y a une panne ou une destruction, qu'est-ce qui se passe dans les fichus pour tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours?
Alors là, vous faites référence à l'importance de l'espace pour la vie quotidienne des Français.
C'est le meilleur des cas.
C'est encore un sujet qui est très méconnu et qui mérite d'être rappelé régulièrement. C'est l'importance de l'espace pour notre mode de vie, pour notre économie. Je rappelle sans cesse que 10% du PIB de l'Union européenne dépend des services de navigation offerts par la constellation Galiléo et la constellation GPS.
Quand vous dites constellation, c'est un grappe.
C'est un ensemble de satellites qui couvre l'ensemble du globe.
Autrement dit, jusqu'ici, les guerres avaient lieu sur Terre, sur mer, sous les océans. Et maintenant, il faut tenir compte, en plus de l'air, de l'espace. Et donc, les guerres risquent, si elles se déclenchent d'une manière vraiment agressive, ces guerres risquent d'être totales. Ce qui est encore beaucoup plus dangereux pour nous tous.
Oui, c'est ce que nous, militaires, nous appelons les opérations, qui est une réalité, les opérations multimilieux, multichamps. Un milieu, qu'est-ce que c'est? C'est le milieu aérien, terrestre, naval, cyber et espace. Il y a 5 milieux. Et le champ, c'est le champ informationnel, la guerre de l'information, par exemple. Et vous savez, à ce sujet, le président de la République a eu des mots très forts lors de la réunion ministérielle de l'espace en février à Toulouse, où il a dit la chose suivante: sans maîtrise de l'espace, il n'y a pas de maîtrise de notre souveraineté et il n'y a pas de maîtrise de notre capacité militaire.
Oui, mais est-ce qu'on a les moyens, les sommes, justement pour cette souveraineté militaire, spatiale, stratégique de la France, aujourd'hui?
Alors,
vous
savez que la présidence française de l'Union européenne a été placée sous le signe de la souveraineté européenne. Et lorsque le président a prononcé cette phrase, il s'inscrivait pleinement dans cette logique-là, souveraineté européenne. Et la souveraineté de la France et l'impulsion que la France a donnée dans ce domaine s'inscrit pleinement dans cette logique-là.
Je lis qu'en février, va avoir lieu à Paris des assises dites du New Space. D'abord, qu'est-ce que c'est et qui ça concerne?
Alors, les assises du New Space, c'est le 7 et 8 février à la Station F à Paris. Hein, Station F qui est un lieu emblématique, vous le savez, de l'innovation, des start-up. Et alors, qu'est-ce que c'est que le New Space? Le New Space, c'est ce phénomène il n'y a pas de old space et de new space, mais c'est un mot qui vient des États-Unis pour décrire l'émergence de nouveaux acteurs dans le domaine spatial, des acteurs qu'on appelle communément les start-up, mais qui peuvent être aussi des petites entreprises et qui deviennent des acteurs extrêmement importants et qui favorisent l'innovation. Alors tout le monde participe au new space, nos acteurs industriels traditionnels, et nous en avons de magnifiques en France, hein, Thales, Airbus.
Mais pour les start-up, est-ce que c'est une économie rentable à terme?
Ben ça, c'est une grande question. On pense qu'aujourd'hui, vous savez, l'espace vit un bouleversement extraordinaire. L'espace entre dans une nouvelle ère. Et donc, vous avez l'exploration spatiale qui prend une nouvelle dimension, le tourisme spatial, l'exploitation des corps célestes, des ressources minières. Tous ces secteurs d'activité vont générer des revenus. Il y a un marché de la surveillance de l'espace qui est en train d'émerger. Et donc, il y a des potentialités extraordinaires. L'espace est aussi un driver extraordinaire pour la technologie. Les technologies qui sont déployées pour l'espace servent aussi à nos applications terrestres.
Dans quelques jours, jeudi 30 juin, vous allez quitter vos fonctions, vous allez quitter l'armée à laquelle vous avez sans doute consacré des années et des années. Combien ?
36 ans.
36 ans. Oui. D'abord pilote de chasse.
Oui. Alors, j'ai eu le bonheur de servir 36 ans dans l'armée de l'air et de l'espace. J'en suis extrêmement honoré, très fier. Ça m'a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Et j'ai aujourd'hui choisi d'avoir une deuxième vie. Je vais continuer à servir, bien sûr, mon pays et mes concitoyens.
Continuez pour tout ce que vous connaissez, votre expérience dans l'espace?
Absolument.
Vous allez faire autre chose?
Non, je vais essayer de mettre mon énergie et mes compétences au service de l'espace et de sujets à fort enjeu technologique.
Et dans le domaine technologique et économique, et de l'espace. À partir de ce matin, CNews va suivre les débats intéressants de la Cité de la Réussite à la Sorbonne et au Panthéon. Et je sais que demain, vous allez intervenir sur le thème en deux mots, l'homme, l'espace, le temps. Est-ce que l'espace est une limite ou est-ce que l'espace est sans limite?
Écoutez, je crois qu'il faut venir demain à la Cité de la Réussite pour écouter ce que nous aurons à dire.
Mais en deux mots.
Un plateau extraordinairement intéressant.
Et alors
écoutez, c'est une vraie question. L'espace, il y a une espèce de paradoxe. L'espace est infini et en même temps, l'homme ne le maîtrise pas du tout et va vivre dans des espaces extrêmement confinés. Des capsules spatiales, des bases lunaires, des modules spatiaux. Et donc, vous voyez, ne serait-ce que ça. Et quand on met là-dessus la dimension temporelle, le temps, et là, vous êtes dans une forme de vertige qui est extrêmement intéressant sur le plan technique et sur le plan philosophique.
Mais on en reparlera peut-être un jour plus tranquillement et plus longuement. En tout cas, merci, Général Flinding. Et à partir de jeudi, j'ai l'impression que beaucoup vont consulter et écouter Michel Friedling. Bienvenue, merci d'être venu.
Merci à vous.
Merci à vous, Jean-Pierre Cabache, et merci à votre invité. Retour sur Terre, puisque demain, Jean-Pierre, vous recevrez Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Il sera question, entre autres, bien sûr, de la crise à l'hôpital et du retour du Covid, mais pas seulement. Tout de suite, l'actualité en bref, c'est avec Elisa Lukavski.
Europe 1.
Une employée de crèche du 3e arrondissement de Lyon est soupçonnée d'avoir tué une fillette de 11 mois hier. Elle lui aurait fait ingérer un produit caustique car elle ne supportait plus ses pleurs. L'enfant a été retrouvée inconsciente par les pompiers dans la crèche avant de décéder à l'hôpital où elle avait été transportée. Une fusillade a fait 2 morts et 14 blessés cette nuit à Oslo. Les tirs ont eu lieu dans le centre-ville de la capitale norvégienne en 3 endroits rapprochés. Un suspect a été arrêté 5 minutes seulement après les premiers signalements des passagers. Et puis une loi pour limiter la violence par arme à feu aux États-Unis. Le Congrès américain a hier adopté une loi soutenue par des membres des deux partis qui vise à mettre en place une régulation des armes à feu la plus importante depuis près de 30 ans. Le texte met notamment en avant le soutien à des mesures qui permettraient de retirer des mains des personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent.
Merci Elisa et la matinale week-end continue avec face à Bigot, face à Guillaume Bigot. Ce matin, c'est Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Au programme L'impasse, toujours, aucun parti d'opposition n'a réagi à la demande d'Emmanuel Macron de compromis, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons aussi sur l'inflation qui va continuer d'augmenter dans les mois qui viennent. Et puis sur cette décision de la Cour suprême américaine, retour en arrière de 50 ans, avorter n'est plus un droit garanti aux États-Unis. À tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Merci d'être toujours avec nous dans la matinale week-end. Il est 8h21, très précisément. Bienvenue à vous. C'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
Face à vous ce matin, Guillaume Perrault, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes rédacteur en chef de Figaro Vox. Une demi-heure pour débattre des thèmes de l'actualité de ce samedi 25 juin. Et on commence par Emmanuel Macron qui avait donné 48 heures aux oppositions pour dire si oui ou non, elles étaient prêtes à travailler avec lui. Les 48 heures se sont écoulées. Et malgré les déplacements et consultations tous azimuts de la Première ministre Elisabeth Borne, rien n'a avancé depuis le sommet européen de Bruxelles. Le président se dit malgré tout confiant. On en parle juste après les précisions de Marie Conan.
2 jours après l'appel d'Emmanuel Macron à coopérer à l'Assemblée nationale, le message ne semble pas vraiment avoir eu l'effet escompté. Pour les oppositions, c'est au contraire au président de s'adapter au nouveau visage de l'hémicycle.
On se retrouve avec un pouvoir qui refuse d'infléchir de rien son programme qu'il a présenté aux élections présidentielles. S'ils font des efforts, puisque ce sont à eux de faire maintenant des efforts et de travailler, puisqu'ils n'ont pas eu cette majorité-là, alors nous verrons.
En attendant le retour d'Emmanuel Macron de son déplacement à Bruxelles, c'est sa première ministre qui a repris la main. Elisabeth Borne a enchaîné les coups de fil avec les tout nouveaux présidents de groupes parlementaires, la France Insoumise, les Républicains ou encore le Rassemblement National. Pour le camp présidentiel, les alliances restent possibles.
La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays. Donc moi, je suis très confiant.
Il manque toujours au président une 40aine de députés pour parvenir à une majorité absolue et ainsi faire adopter les lois proposées par l'exécutif.
Guillaume Bigot, on a le sentiment que chacun se renvoie la balle, mais ce qui est intéressant, c'est cette confiance exprimée de la part d'Emmanuel Macron depuis Bruxelles, comme s'il voulait banaliser la situation, puisqu'il évoque d'autres pays d'Europe où il y a des coalitions et des compromis. Est-ce que c'est un bon choix, cette comparaison ?
C'est en tout cas exact. Ce qu'il dit est factuellement exact parce que cette idée d'avoir des compromis, de ne pas pouvoir gouverner seul pour un parti et a fortiori pour un homme, dans, chez nos voisins, c'est comme ça que ça se passe. Donc il a raison, cet argument est juste. Maintenant, ce qu'on entend, c'est le fameux adage, se comparer, c'est se consoler. Ce qu'il essaye de faire, c'est de banaliser cette situation. Et on a là une, comme disait communicant, une séquence où on est parti, souvenez-vous, d'un gouvernement d'union nationale à un gouvernement de majorité, quand même, voilà, avec des alliés, de coalition nationale. Puis maintenant, on en est à des accords au cas par cas, donc à la godille, on verra au cas par cas, texte par texte. Donc ça montre que non seulement il n'est plus le maître des horloges, il n'a plus la main, il n'a plus directement le pouvoir. Je vous rappelle, dans l'architecture de la Ve République, le président de la République ne peut pas gouverner seul. Il s'appuie sur un exécutif. Cet exécutif doit bénéficier d'une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, normalement, dans un pouvoir parlementaire, comparaison pour comparaison, si on va au bout de la comparaison, c'est-à-dire qu'en Italie, en Allemagne, en Belgique et dans beaucoup d'autres pays parlementaires, le pouvoir exécutif qui est en place émane directement de l'Assemblée et doit demander à l'Assemblée un vote de confiance. Le fameux vote de politique générale qu'on attend, que l'Assemblée attend, tel Godot, ce sera le vote ou pas, enfin, ce que Mme Borne va proposer ou pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut comprendre pourquoi il y a eu aussi un mécanisme assez différent de ce qu'on voit en Grande-Bretagne, par exemple, en Grande-Bretagne ou dans les pays scandinaves, où il y a d'abord des modes de scrutin un peu différents qui donnent, qui peuvent, pas toujours, mais qui normalement donnent franchement la main à une majorité à l'Assemblée nationale, et donc font que l'exécutif, bien qu'il émane du Parlement, soit vraiment très stable et très solide avec un parti qui peut gouverner. C'est classique en Grande-Bretagne. Et c'est ce qui a été un peu voulu. Il y a cette dose de parlementarisme dans nos institutions. Alors, pourquoi il n'y a pas ça en Italie et en Allemagne, notamment ? Parce que l'Italie et l'Allemagne ont vécu la Seconde Guerre mondiale de manière extrêmement traumatique. Il n'était pas question, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que ni, par exemple, le parti fasciste, ni le parti NSDAP, il y ait des configurations de ce type, avec des personnages aussi autoritaires qui auraient un pouvoir vertical jupitérien. Parce que chez nous, ça peut donner Napoléon, Napoléon III, ça peut donner Clémenceau. En Allemagne, en Italie, ça n'a pas été...
C'était Mussolini et Hitler.
Voilà, exactement. Donc pour éviter ça, on ne va pas rentrer dans le détail du droit constitutionnel de ces pays, mais grosso modo, en Italie, vous avez un bicamérisme structurel qui fait qu'il doit y avoir, pour qu'un gouvernement se forme, non seulement ce qu'ils appellent des combinations, c'est-à-dire le fait que les différents partis se mettent d'accord et fassent une espèce de salade, mais en plus, le Sénat et l'Assemblée, qui sont rarement de la même couleur politique, doivent se mettre d'accord. Donc les conditions sont fabriquées pour que ce soit très complexe. Et j'accélère, c'est la même chose en Allemagne avec une combination. C'est pas tout à fait le même accent, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'aucun parti ne doit pouvoir être hégémonique. Et grosso modo, les partis doivent travailler ensemble. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est toujours là le même problème, c'est que les cultures ne se transposent pas, les systèmes historiques ne se transposent pas. Et nous, on a tellement payé lourdement le gouvernement des partis, on a tellement payé lourdement les mauvais côtés de ce système qu'au contraire, on s'est doté d'une constitution qui est une sorte d'armature de corset de fer pour la France, ça s'appelle la constitution de la Ve République, qui ne fonctionne pas du tout comme ça.
Guillaume Perrault, pour l'instant, pas de majorité claire, ça va mettre certainement du temps à se dessiner. Si ça se dessine un jour, combien de temps le pouvoir va-t-il rester à l'arrêt ?
Oh, je ne dirais pas qu'il reste à l'arrêt. Je distinguerais la crise de régime et l'immobilisme. La crise de régime, je n'y crois pas. Je pense qu'on n'est pas guetté par ça parce que la Constitution reste solide. L'immobilisme, en revanche, ça, c'est quelque chose qui nous guette.
Rester à l'arrêt.
Voilà. Oui, je veux dire par là que le budget sera toujours voté, la loi de financement de sécurité sociale sera toujours votée, il y aura toujours un gouvernement, les ministères vont expédier les affaires courantes. La question, c'est est-ce qu'il va pouvoir réformer ou juste expédier les affaires courantes ? La comparaison avec 88-93 me paraît éclairante. Il y a déjà eu une fois où il n'y avait pas de majorité absolue sous la Ve République dans notre histoire récente. C'était sous Rocard, Cresson, Bérégovoy. Quand ils étaient à Matignon, Mitterrand avait été réélu dans un fauteuil en mai 88 et en juin 88... il n'a pas eu de majorité absolue.
Mais c'était moins relatif qu'aujourd'hui.
Alors, il lui manquait une quinzaine de voix. Oui, là, il en manque une quarantaine. C'est pas pareil. C'était le septennat. Mitterrand était plus respecté et la présidence de la République plus prestigieuse.
Et le 43.
Plus incontesté que Macron aujourd'hui. L'ambiance est beaucoup plus dure aujourd'hui. Et enfin, le 49-3 est contingenté depuis 2008. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser de façon discrétionnaire.
Cet outil qu'on peut dégainer et qui nous fait passer au-delà de, de l'Assemblée.
Il y avait un tirage limité sur le 49-3.
Le 49-3, ça permet de faire adopter un projet de loi sans vote, sauf si une motion de censure déposée obtenait 289 suffrages, c'est-à-dire la majorité absolue des voix. Mais ce qu'il faut bien dire, excusez-moi d'être dans la cuisine parlementaire, mais ça compte, c'est que les 289 voix qui sont nécessaires pour faire adopter un texte à l'Assemblée, ils sont durs à rassembler pour la majorité, pour Macron, mais ils sont encore plus durs à rassembler pour l'opposition, pour renverser le gouvernement. Donc, personne n'est dans une situation confortable. Et finalement, c'est l'opinion publique qui va être l'arbitre de cette situation inédite. Et l'incertitude que l'on a, c'est qui va être tenu pour responsable d'une situation où finalement la France est gérée au fil de l'eau, si jamais c'est le cas dans les mois qui viennent. Ça, on ne le sait pas encore, mais j'imagine mal LFI et les députés de Marine Le Pen mêler leur voix dans une motion de censure pour renverser Mme Borne. Donc, dans l'immédiat, elle n'est pas menacée dans les mois qui viennent. Ce qui est menacé, c'est des choix francs. Oui, c'est des choix francs pour le pays face aux défis qui sont les siens.
De quel côté la balance va-t-elle pencher ? On se pose la question juste après les titres de l'actualité, les 8h30. Elisa Lukavski.
Retrait des forces ukrainiennes de la ville stratégique de Severodonetsk. Les Russes progressent ainsi un petit peu plus dans le Donbass. Ce matin, le gouvernement ukrainien réclamait à ses alliés de lui donner, je cite, une parité de feu, plus d'armes pour lui permettre de rivaliser avec l'ennemi. Dans le sud du pays, à Kherson, un attentat a causé la mort d'un fonctionnaire de l'administration mise en place par les Russes. De nouveaux affrontements en Équateur pour la deuxième journée consécutive des heures ont éclaté autour du Parlement à Quito entre manifestants indigènes et forces de l'ordre. Le président de la République, Guillermo Lasso, a dénoncé, je cite, « une tentative de coup d'État ». Et puis au moins 18 migrants d'origine africaine sont morts hier lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc. Les victimes sont décédées dans des bousculades et en chutant de la clôture métallique qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain.
Merci Elisa. Guillaume Bigot, de quel côté la balance va-t-elle pencher ? On assiste finalement à un bras de fer, ça peut durer longtemps ?
Ça va durer tant que cette assemblée a cette couleur, c'est-à-dire une couleur... non pas introuvable, parce que la chambre introuvable, c'était autre chose, mais ingouvernable. En fait, on a bien compris quoi ? On a bien compris qu'on est dans une situation quand même très différente de celle de 1988, auquel faisait allusion tout à l'heure Guillaume Perrault, parce qu'ils en ont beaucoup moins, des députés acquis à la majorité, et qu'ensuite, le système, je dirais, tout le système politique, est beaucoup plus liquide et beaucoup plus décomposé qu'à l'époque. À l'époque, vous aviez le Parti communiste qui était prêt à rentrer dans la danse et à travailler comme M. Rocard, et vous aviez un parti centriste de mémoire qui était prêt, et donc il y avait une majorité, une feuille de route gouvernementale, de sorte que cette fameuse question de confiance et de politique générale pouvait être présentée, recevée. Alors, c'est toujours mieux d'avoir une majorité complètement acquise au président de la République, évidemment, une sorte de majorité Godillot, mais enfin, c'est mieux du point de vue du pouvoir exécutif, bien sûr, pas nécessairement du point de vue de la démocratie. Mais en tout cas, c'était la configuration de 1988 où il y avait tout de même une majorité. Dans ces conditions-là, il y a tout de même eu un recours au 49-3 assez intempestif, puisque je crois qu'il y en a eu une soixantaine de recours au 49-3. Donc ça a quand même tangué. Mais là, ce n'est pas du tout la situation en place. C'est-à-dire qu'on nous parle de majorité relative, et cette majorité relative ne veut rien dire, puisqu'en face, vous avez pour le coup une majorité, une opposition absolue écrasante, avec une majorité de blocage écrasante. Autrement dit, à tout moment, ce que M. Macron envisage comme étant au cas par cas, on va trouver des majorités, mais ça peut vouloir dire qu'au cas par cas, ils vont trouver des oppositions. Au cas par cas, ils vont trouver des combinaisons, soit de gens venant du RN, soit venant des différents partis de la NUPES, soit venant de LR. Ceux qui auraient eu la clé, et la clé, en fait, en quelque sorte, de la prison parlementaire qui s'est refermée sur M. Macron, et qui fait que le président de la République, de personnage tout puissant, est devenu quand même maintenant quelqu'un qui ne peut plus gouverner directement, en tout cas plus légiférer directement, eh bien, c'est le parti LR qui nous a expliqué pendant la présidentielle que le président de la République avait photocopié. Vous savez, quand on était jeune, on nous interdisait de photocopier, parce qu'on disait que c'était photocopiage. Voilà, bon. Alors, Mme Pécresse, elle nous a dit, mais il y a eu du photocopiage. M. Macron m'a pris mon programme. Mais attendez, si M. Macron vous a pris votre programme, Bah, dans ce cas, vous pouvez lui donner une majorité. Mais non, parce que LR joue sa survie. Donc si LR joue sa survie, un, avec son unité, sinon LR va se fracturer.
Financière. Et joue,
bien sûr, financière aussi. Et joue sa survie aussi, parce que pour le coup, ils vont complètement finir de se dissoudre dans le macronisme. Donc on voit bien que pour des raisons politiques, politiciennes, il va y avoir justement ces fameuses combinaisons n'arriveront pas.
Guillaume Perrault, puis après je voudrais qu'on parle de l'inflation parce que c'est un sujet quotidien des Français qui risque d'être bloqué aussi par la situation qu'on est en train d'expliquer.
Alors il y aura d'autant moins d'accords de gouvernement avec LR que d'abord, ce sont des survivants, donc la plupart des LR, des députés LR, détestent les macronistes et sont talonnés dans leur circonscription par le RN, dans beaucoup de cas. Donc ils n'ont aucun intérêt, effectivement, pour le moment, à aller au secours des macronistes. Par contre, si à Matignon et à l'Élysée, on est habile, s'il y a des conseillers parlementaires chevronnés, je ne sais pas s'il y en a, mais s'ils existent ou s'ils vont arriver, ils vont négocier l'abstention, c'est ça la clé, l'abstention de tel ou tel député ou de tel groupe pour faire baisser le nombre de votants. Et si vous faites baisser le nombre de votants, vous baissez le nombre de voix dont vous avez besoin, le nombre de voix dont vous avez besoin pour faire adopter un texte. C'est ça qui peut se passer si vraiment on a des artistes de la politique aérienne.
Mais voyez, ça m'étonnerait que ça réconcilie les Français avec les partis politiques.
Ça risque d'être
compliqué. Ce genre de petits arrangements entre amis.
Surtout vu la situation économique actuelle, avec l'inflation galopante, cette question, le pire est-il à venir? Selon l'INSEE, la hausse des prix va encore s'accélérer dans les semaines qui viennent pour atteindre jusqu'à près de 7% à la rentrée. Lisa Lukavski, à quoi doit-on s'attendre?
Les prévisions de l'INSEE, elles sont pessimistes. L'inflation, qui est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation des prix, elle devrait atteindre 6,8% à la rentrée en septembre, conséquence du contexte international. Si on regarde sur l'année 2022, eh bien d'après les estimations de l'INSEE, l'inflation, elle aura en moyenne augmenté de 5,5%. Ce niveau de hausse de prix, il est inédit depuis 1985, même s'il demeure moins élevé que dans les autres principales économies de la zone euro. Surtout, eh bien cette hausse, elle a été limitée par les mesures mises en place par l'État en novembre dernier. On pense notamment au bouclier tarifaire sur les prix du gaz ou encore de l'électricité, ou encore à la remise à la pompe au niveau des carburants. Sans ces coups de pouce de l'État, l'INSEE estime que l'inflation, elle aura en moyenne cette année dépassé les 7%. Mais il y a une ombre au tableau. Le soutien à la consommation des Français a un coût conséquent qui ne fait qu'augmenter la dette publique. Au premier trimestre 2022, cette dette publique, pour la première fois, elle a dépassé la barre des 2 900 milliards d'euros.
Guillaume Bigot, et on revient finalement au sujet précédent. Il y a urgence à avancer, sauf qu'on a du mal à avancer.
Je crois qu'un des premiers textes qui va être sur le bureau des assemblées, ça va être un texte qui émane de l'exécutif. C'est, puisqu'on a, dans le système parlementaire, vous avez soit des textes qui émanent de l'exécutif, soit des textes qui sont proposés par l'Assemblée. Et bien là, le premier texte que le gouvernement de Mme Borne veut proposer, c'est un texte sur la défense du pouvoir d'achat. Mais on va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que oui ou non, ils vont trouver alors soit des abstentionnistes bienveillants, soit des gens qui vont voter avec eux? C'est toute la question. Ce qui est sûr, c'est que là, tout immédiatement, à peine, parce qu'il y a un agenda parlementaire, donc on sait que ce texte va sortir, LR, qui serait a priori aligné, a tout de suite proposé son texte de son côté. Vous voyez, donc ça a l'air assez mal engagé. Ce qu'on va perdre, en fait, en capacité de gouvernement, en cohésion gouvernementale, on va probablement, parce qu'à toute chose malheur est bon, le gagner en démocratie, en transparence de la vie démocratique. Effectivement, tout sera débattu, tout sera sur la place publique.
Est-ce que tout
ça,
va
c'est indiscutable que le Parlement
temps,
va reprendre des couleurs.
Tout va prendre plus de temps.
Plus de temps ou être paralysé, on ne sait pas. Ça dépendra.
Guillaume Perrault.
Le pouvoir réglementaire reste important en France.
Absolument.
Vous avez beaucoup de décisions qui relèvent du gouvernement et non pas de l'Assemblée nationale. Et que le Premier ministre, les ministres peuvent prendre par décret un certain nombre de choses. Par exemple, tout ce qui concerne les boucliers tarifaires, je doute fort que ça relève du Parlement. C'est certainement le pouvoir autonome du gouvernement, de l'exécutif. Bon, ça, c'est une première précision à faire. Maintenant, sur le fond du sujet, l'inflation... À mes yeux, il n'y a pas de bonne et de mauvaise inflation. Et on a eu tendance à l'oublier. C'est-à-dire que la politique de désinflation compétitive qui a été mise en place depuis le milieu des années 80 a été longtemps très critiquée. On disait qu'elle favorisait les épargnants, ceux qui s'enrichissent en dormant. Ce qu'on peut dire en revanche, je parle de l'inflation, c'est qu'elle peut être acceptée, on peut y trouver son compte, dans un contexte de forte croissance. comme dans les années 60. Là aujourd'hui, pardon, évidemment, c'est absolument pas le cas.
La note de l'INSEE parle de, elle a appelé ça guerre et prix. Oui, allusion alors, à Tolstoï, oui, parce qu'on est dans un contexte particulier.
Oui. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que on ne peut pas acheter la pierre au gouvernement de faire des petits chèques pour essayer de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Mais le drame, si vous voulez, c'est qu'on a installé avec le Covid et la catastrophe qu'a représenté l'expression « quoi qu'il en coûte », « quoi qu'il en coûte » de Macron. On a installé l'idée que le pouvoir d'achat, c'était un droit social. C'était un droit social que l'État devait garantir. Mais non, ce n'est pas possible. Il a créé une attente qu'il ne peut pas satisfaire. Il n'est pas en mesure de répondre à l'attente qu'il a créée en se laissant aller à des promesses pareilles. Évidemment, il faut favoriser le pouvoir d'achat des Français. Mais dans ce cas, il faut poser la question des salaires nets. Pourquoi sont-ils si bas en France? Et donc, ça renvoie à la question de l'État, la structure générale de l'économie française, la création des richesses et la production en général. Et on dissocie le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat, de l'économie, comme si c'était quelque chose, si vous voulez, que le gouvernement pouvait régler seul. Et donc, c'est ça l'illusion qu'on entretient.
Guillaume Bigot ?
Alors, je suis assez d'accord avec ce point, c'est-à-dire que quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire ça fait directement allusion aux mesures de bénévolence du chèque et de la création monétaire pendant la période de Covid, a été trop loin. Et d'ailleurs, si on compare terme à terme le quoi qu'il en coûte en France et par exemple en Allemagne, le quoi qu'il en coûte nous a coûté beaucoup plus cher en France qu'en Allemagne, puisqu'on a été beaucoup plus loin dans la dramatisation, vous savez, de cette nouvelle peste noire où tout le monde allait tomber comme des mouches, etc. Donc il y a les biens essentiels, pas essentiels, tous les magasins devaient être fermés, les Français devaient retenir leur souffle, mettre un masque, se faire des mots. Bon, on ne revient pas sur cette séquence, mais grosso modo, ça a une traduction effectivement d'aggravation de la dépense publique majeure. Maintenant, je suis bien d'accord aussi avec Guillaume sur le fait que c'est complètement un phénomène dit exogène, c'est-à-dire que cette inflation, elle vient de l'extérieur nous percuter. C'est une inflation sur les prix, sur l'anticipation des prix de l'énergie, des matières premières agricoles, et ça vient directement de la guerre en Ukraine et des sanctions. Et pour le coup, c'est là où on aurait vraiment eu besoin d'un quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon, on l'a dépensé avant pour une soi-disant pandémie mortelle, gravissime, comme on n'avait jamais eu dans l'histoire. Maintenant, on a bel et bien une guerre avec des conséquences inflationnistes extérieures, mais on a déjà, pour reprendre l'expression, cramé la caisse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très simple, donc il y a une désynchronicité, c'est que là, vous avez le choix entre deux mots. C'est-à-dire, soit vous faites finalement, soit vous ne faites rien. Et comme les salaires sont très bas, et comme le niveau de revenu des Français, de beaucoup de Français, sont à la limite, là, ce phénomène inflationniste va les noyer, littéralement les noyer sur le plan économique. Donc on ne peut pas laisser faire. D'un autre côté, la seule solution, ce serait d'accompagner notamment les salaires, parce qu'on le voit bien que pour des raisons électorales, on veut accompagner par exemple les retraites, mais on ne veut pas accompagner les salaires. Alors, c'est les salaires qui comptent pour l'essentiel. C'est pas seulement par gentillesse pour ne pas laisser les Français se noyer économiquement. C'est aussi pour soutenir la croissance. Parce que si vous ne le faites pas, ce choc inflationniste, il va détruire la croissance.
De toute façon, la
consommation et la croissance. Et de tout, vous ne pourrez plus investir. Vous ne pourrez plus non plus rembourser la dette. C'est ça le paradoxe. Donc, en fait, vous ne pouvez pas remonter maintenant les salaires au niveau de l'inflation, en fait, ajuster les salaires inflation, ce qui serait nécessaire pour maintenir le niveau de vie, non pas l'augmenter, mais juste le maintenir. Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, que propose le gouvernement en même temps? C'est-à-dire qu'il propose de le faire que pour les bas revenus. Mais en fait, c'est l'ensemble du système de croissance qui va être percuté.
On en vient au choc aux États-Unis où la Cour suprême est donc revenue hier sur un acquis qui datait de près de 50 ans. Un triste jour pour l'Amérique, ce sont les mots du président américain Joe Biden. Le droit à l'avortement n'est aujourd'hui plus inscrit dans la Constitution. Dans la foulée, plusieurs États ont déjà commencé à interdire l'IVG. Les précisions de notre correspondante Elisabeth Guedel.
La liste des États américains où l'avortement est désormais légal s'allonge depuis la décision hier de la Cour suprême. Les cliniques dans ces États ont arrêté toutes les procédures d'IVG. Un médecin qui met fin à une grossesse non voulue risque 10 ans de prison dans l'Arkansas, 15 ans en Louisiane. Et dans quelques semaines, eh bien, l'accès à l'avortement sera impossible ou très limité dans la moitié du pays. Des manifestations de joie pour certaines, de colère pour beaucoup d'autres, ont éclaté dans les grandes villes, à Washington, New York, Los Angeles. Il y en a beaucoup d'autres prévues ce week-end. Joe Biden a appelé à manifester calmement, le président américain, qui a parlé d'un jour triste pour le pays, d'une erreur tragique. Il a aussi donné rendez-vous aux Américains dans les urnes au mois de novembre pour les midterms, hein, les élections au Congrès. Il les a appelés à élire une majorité suffisamment forte pour voter une loi fédérale garantissant le droit de l'avortement à l'échelle nationale, le droit à l'avortement qui sera l'un des thèmes forts, central de la campagne électorale de ces prochains mois.
Il nous reste hélas très peu de temps. Guillaume Bigot, une réaction à cette première puissance mondiale qui revient 50 ans en arrière?
Bon, c'est extrêmement choquant, vu ce côté de l'Atlantique. C'est extrêmement choquant parce que le corps des femmes, finalement, ne leur appartient plus totalement. Dans pas mal d'États, elles vont être à la merci de ce qui va être voté dans différents États. Et il y a beaucoup d'États qui ont ce qu'on appelle les trigger laws, c'est-à-dire des lois gâchettes qui ont déjà été prêtes.
Ils ont déjà dégainé.
Ils ont déjà dégainé, exactement. Ils avaient préparé l'interdiction formelle de l'avortement. Bon, donc ça, c'est extrêmement choquant, évidemment. D'un autre côté, pour la première réaction, on pourrait se dire, bon, bah, on ne peut pas vraiment légiférer contre les mœurs, donc ce n'était pas au juge de décider, donc c'était plutôt aux majorités dans les différents États de décider, sauf que on voit tout de même que les deux tiers des Américains, les sondages le disent,
sont favorables,
les deux tiers des Américains sont favorables à la consécration au plan fédéral de l'avortement. Donc on voit là toutes les limites de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement des juges, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Comment une poignée de gens non élus peuvent décider pour tout un pays que ça c'est bien ou ça c'est pas bien?
Des gens qui avaient été nommés en l'occurrence par Donald Trump, voilà. C'était un peu contre la chronique d'une décision annoncée. Guillaume Perrault, très brièvement.
Bon, ça a été rendu par 5 voix contre 3 et le président de la Cour suprême est resté au-dessus de la mêlée. Ça c'est pour le rapport de force au sein de la Cour suprême. On a le texte du contre-arrêt, puisque les opinions dissidentes sont rendues publiques dans les arrêts aux États-Unis. Donc la controverse juridique va continuer. Le débat va devenir politique, puisque les législatures, ça va être une question pour les élections en novembre.
Demi-mandat.
Évidemment. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un tiers parti qui n'a pas une opinion extrêmement tranchée. Parce que l'arrêt Roe versus Wade, qui avait légalisé l'IVG en 73, et qui vient d'être renversé là, par cette jurisprudence, l'arrêt Roe versus Wade autorisait l'IVG jusqu'à 28 semaines. C'est donc bien au-delà de ce que prévoyait la loi Veil. Donc il faut bien voir ça aussi, parce que la solution de 73 était maximaliste, ce qui a créé un tiers parti aux États-Unis qui, tout en étant favorable à l'IVG, trouvait qu'on était allé trop loin. Donc il ne faut pas non plus penser que c'est complètement manichéen et binaire dans l'opinion publique américaine sur ce sujet. Il y a aussi un troisième... Oui. Non mais il faut voir ça, si vous voulez. La loi du Mississippi, qui était l'objet du débat dans la Cour suprême, elle était jugée inconstitutionnelle alors qu'elle protégeait l'IVG jusqu'à 15 semaines, c'est-à-dire au-delà du délai de ce qui est prévu en France.
Merci Guillaume, pardonnez-moi, nous manquons de temps. Hélas, tout de suite les titres, Elisa Lukavski.
Europe 1.
Volodymyr Zelensky a comparé le chemin de l'Ukraine vers l'UE à l'ascension de l'Everest. Une déclaration après que l'Union européenne, réunie en un sommet à Bruxelles, ait entériné jeudi la candidature du pays. Une étape hautement symbolique, 4 mois après l'invasion lancée par l'armée russe. Le début d'une 7e vague de l'épidémie de Covid-19. Hier, on recensait en France 79 262 nouveaux cas, une augmentation de 56,6% en seulement 7 jours. Un regain de l'épidémie dû notamment à de nouveaux sous-variants de la famille Omicron, BA4 et BA5. Et puis du sport avec le premier titre de champion de France de rugby pour Montpellier. Les Héraultais qui ont dominé Castres hier au soir au Stade de France 29-10 avec 3 essais inscrits d'entrée de jeu dès le premier quart d'heure. Les Montpelliérains qui succèdent aux Toulousains au palmarès.
Merci Elisa. Ce week-end, CNews est partenaire de la Cité de la Réussite. 2 jours de débat à la Sorbonne pour mieux comprendre un monde en pleine mutation, on en parle régulièrement ici dans le Face à Bigot avec des personnalités du monde politique, culturel, scientifique, économique. Barbara Klein, bonjour, ça commence de bon matin. Vous êtes avec Sylvain Kern, entrepreneur et fondateur de cette Cité de la Réussite, Barbara.
Oui, bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Effectivement, en direct de ce lieu magnifique qu'est l'Université de la Sorbonne, en compagnie de Sylvain Kern. Bonjour Sylvain Kern.
Bonjour, Barbara.
Vous êtes entrepreneur et fondateur de la Cité de la Réussite. Alors, la Cité de la Réussite, Isabelle vient de le rappeler, ce sont 2 jours de rencontres, 50 débats, 200 personnalités qui vont y participer. Pouvez-vous nous rappeler l'idée de départ? Dans quelle perspective avez-vous créé cet événement?
C'était une idée extrêmement simple. On était, il y a plus de 30 ans, étudiants ici avec une bande de copains et on s'était dit, essayons de réunir pendant 48 heures des personnalités du monde entier, de l'économie, de la politique, des sciences, qui viendraient directement dialoguer avec des jeunes. C'était vraiment notre idée de base et de départ qui a perduré et qui continue aujourd'hui.
Oui, 33 ans d'existence. Oui. Le thème de cette année, c'est prendre le temps.
Oui.
Alors justement, le temps qui passe, le temps qu'on prend ou qu'on ne prend pas justement, notre rapport au temps, il a beaucoup évolué ces 2, voire presque 3 dernières années. Comment définiriez-vous notre rapport au temps aujourd'hui?
Alors c'est pour nous une histoire assez étonnante puisqu'on avait défini ce thème bien avant le Covid. On a annulé cette cité bien sûr en avril 2020 puisque comment réunir des milliers de gens, c'était impossible. Et donc 2 ans après, 25 et 26, aujourd'hui et demain, nous voilà de retour et notre rapport au temps a totalement évolué, totalement changé. Et pendant ces 48 heures, c'est la question qu'on va poser à nos 200 intervenants.
Est-ce que vous trouvez qu'on prend assez le temps aujourd'hui? On critique souvent notre société pour être celle qui nous fait passer d'une chose à l'autre en zappant dès que notre attention faiblit. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre le temps?
Écoutez, si on a choisi ce thème, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, c'est qu'évidemment non. Et nous, ce qu'on a souhaité avec toute notre équipe, avec Marjorie, avec Cécile, c'est véritablement de s'arrêter pendant ces 48 heures. C'est de dire aux gens, et des milliers de gens se sont inscrits, la plupart des amphis sont combles, il y a encore quelques places, les gens pourront venir, mais c'est de s'arrêter, de réfléchir, de dialoguer et de prendre ce temps que les gens ne prennent plus, évidemment.
On peut peut-être rappeler le principe, les portes ouvriront tout à l'heure, tout le monde peut venir et surtout participer au débat, interrompre presque, j'ai envie de dire, l'orateur pour poser une question.
Vous avez tout à fait raison parce que le principe de la Cité depuis le premier jour est toujours le même. Aucun des intervenants ne viendra faire un discours. Même quand on reçoit un chef d'État, on lui demande de ne pas faire de discours, mais de véritablement venir dialoguer, répondre aux jeunes, répondre au public, dans un jeu sincère, réel, qui est sans doute différent des autres endroits, où vraiment le plus important, c'est ce dialogue et l'échange libre et réel.
Le principe aussi, c'est que ces personnalités, près de 200, donnent leur vision du temps, ou est-ce qu'elles ont une liberté d'interpréter le thème aussi?
Alors, elles ont évidemment une liberté d'interpréter le thème. Nous donnons toujours un cadre. La dernière fois, c'était la transmission. Cette fois-ci, c'est le temps. Évidemment, on les interrogera et c'est une forme de fil rouge sur notre rapport au temps. Mais ça ira bien au-delà. Claude Lelouch, Alain Prost, ce matin, Edgar Morin qui fait la conférence d'ouverture au Panthéon. Vous vous rendez compte, Edgar Morin a 100 ans. Je rêvais de l'avoir. Un siècle de vie. Et il nous a dit oui, et il sera là dans quelques minutes pour cette ouverture, ce dialogue avec la jeunesse. Un homme de 100 ans qui va dialoguer avec des jeunes. Chacun nous donnera son rapport au temps.
D'accord. On peut effectivement détailler les univers très différents desquels viennent ces invités. Il y a le monde de la culture, il y a des sportifs.
Tout à fait.
Donnez-nous envie de venir assister.
Écoutez,
à ces conférences.
Écoutez, j'ai mis quelques noms. Edgar Morin, Bertrand Piccard, Claude Lelouch, Thierry Derez, Alain Prost, André Comte-Sponville. Demain, 2 anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Laurence Descartes, la patronne du Louvre. Toute notre idée, c'est l'éclectisme. C'est que, quel que soit l'intérêt que vous portez aux choses et à la vie, normalement dans ce programme, vous aurez à tout le moins un moment, un débat qui vous intéressera.
Alors 33 ans, on le disait, pour cette Cité de la Réussite, depuis la première édition. Quel regard portez-vous justement sur ce temps écoulé pour cette cité? Pourrait-on dire qu'elle est devenue majeure? Est-ce qu'elle a atteint la maturité? Est-ce qu'elle embellit avec le temps? Est-ce que la maturité lui réussit?
C'est une très jolie question. Je disais l'autre jour que ma seule fierté, c'est d'avoir inscrit ce projet dans le temps. Parce que je pense que chacun de nous, on peut faire une chose à un moment donné, mais faire en sorte que 33 ans plus tard, les intervenants, le public, les partenaires, CNews qui est là pendant tout le week-end, que vous soyez tous là, que vous ayez envie, alors que les choses sont compliquées, on sort d'une période électorale. Et pour autant, je crois qu'après ce Covid, le public a besoin et envie de retrouver des lieux où on est ensemble, où on va avoir chaud ensemble dans tous les amphis pendant le week-end. Oui, je crois qu'on a atteint une forme de maturité, c'est vrai.
Et puis le temps est un peu suspendu aussi dans un lieu historique comme celui-là. C'est ça que vous voulez offrir, une parenthèse qui permet de réfléchir. Je sais que le but, c'est de sortir enrichi, parce que plus intelligent, plus ouvert aussi peut-être sur le monde qui nous entoure.
Vous avez tout compris, Barbara. C'est exactement ça. En fait, le point de départ, c'était de donner l'envie. Donner l'envie aux gens ensuite de lire, donner l'envie aux gens de comprendre, donner aux gens envie d'aller voir une exposition en fonction d'un artiste qu'ils auront vu, leur permettre. Et ce lieu, vous le savez, vous me l'avez dit, ce lieu est juste magnifique. Cette Sorbonne, et je ne les remercierai jamais assez, les différents recteurs et présidents d'université qui nous autorisent pendant tout un week-end d'avoir tous les lieux à nous. C'est tout à fait étonnant, et d'offrir ça au public.
On revient forcément sur cette chronologie, on l'a évoqué, ces deux années difficiles. Cette valeur temps, elle diffère selon qu'on est au présent, selon qu'on se retourne sur le passé ou qu'on envisage l'avenir. On est là encore dans une société qui nous propulse vers l'avenir à un temps record. Cette valeur temps, elle n'a donc pas la même valeur, elle change selon qu'on se tourne vers le passé ou qu'on regarde l'avenir ou qu'on vive le présent.
Oui, je crois vraiment. On a fait une chose, par exemple. Tous nos débats, d'abord, seront réels, là, à partir de 11h, pendant 2 jours. Et ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez les voir et les diffuser sur notre plateforme. Je n'ai pas voulu que ce soit en direct, parce que je pense que le temps réel, le temps où nous sommes ensemble, n'a pas de prix.
Il a une plus grande saveur, alors, justement. Il est beaucoup plus précieux.
Oui, vraiment. Je crois que c'est toute l'idée de la cité. C'est, un, le dialogue, et deux, ce moment un peu hors du temps, dans ces lieux tout à fait magiques, où les gens vont découvrir pour certains, pour la première fois, ce qu'est notre université, le Panthéon qui nous accueille, première fois depuis 33 ans, c'est pour nous tout à fait incroyable.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, d'avoir donné envie, on l'espère, Isabelle, et à nos téléspectateurs de venir écouter ces débats. Les portes ouvrent donc à 10h. Premier débat, Sylvain Kerr nous l'a rappelé, à 11h.
Merci beaucoup, Barbara Klein. Et évidemment, ce sera notre fil rouge tout au long de la journée. Merci beaucoup à vous, Guillaume Perrault. Bon week-end à vous. On vous retrouve le week-end prochain. Guillaume Migaud, merci également.
Merci.
On vous retrouve pour la suite de la matinale week-end. Et pour les auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez vous, Thierry Dagiral, avec Frédéric Taddeï. Très bon samedi à vous.
Bon samedi à vous également, Isabelle Moreau. À demain, on accueille Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine au programme. Frédéric, bonjour.
Bonjour Thierry. La France est-elle aussi ingouvernable qu'on le dit, alors qu'Emmanuel Macron se retrouve dans la même situation qu'à peu près tous ses homologues européens ou que Joe Biden? On va voir ça avec le politologue Vincent Martini. On va corriger pas mal de sottises qui ont été dites et répétées toute la semaine. Je recevrai ensuite Patrick Martin-Jeunier à propos de l'enclave russe de Kaliningrad. Vous vous souvenez du couloir de Danzig qui a été le point de départ de la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, Kaliningrad, c'est pareil, empire. Et l'on terminera l'émission avec Albina Dubois-Rouvray, une grande productrice de cinéma, la première femme en fait à avoir exercé ce métier en France.
A tout de suite, Frédéric, dans un instant sur Europe 1, toute l'info à 9h, l'inflation qui ne cesse de grimper, dit l'INSEE. Le coup de tonnerre aux États-Unis sur l'avortement et Montpellier aux anges hier soir au Stade de France. C'est à suivre sur Europe 1, bien sûr. A tout de suite.